Bonjour aux nouveaux mariés. Sébastien m'a dit après, je pense que c'était avant qu'il se marie ou pas longtemps après, il dit « Ah, oh, je vais venir à ton cours, je vais venir à ton cours. » Ouais, c'est ça, c'est ça. Là, il commence à venir, là, tu sais. Non, c'est correct. On comprend ça, tu sais. Avez-vous reçu... Monsieur Boniface, avez-vous reçu le courriel? Bon, c'est bon. Pas de problème. Bonjour. Félicitations. C'est fun, soyez là ce matin, c'est super. Moi, c'est ça. Bonjour à tous. On est, je ne sais pas trop, les nombres fluctuent. Il me semble que les dernières semaines, on était moins, on est plus aujourd'hui. C'est bien. On va commencer par un mot de prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'offrirait volontaire pour le début du cours? OK, c'est bon. Seigneur, merci pour cette journée. Merci pour ta paix, Seigneur. Merci pour... ton amour inconditionnel, ta grâce qui repose sur nous. On veut apprendre à te connaître davantage. On veut se rappeler qui tu es pour, Seigneur Dieu, pour avoir un amour renouvelé pour toi. Merci pour ce temps ce matin où on peut, dans la paix, regarder ta parole et être émerveillé devant ta toute-puissance, devant ton intelligence et devant aussi ton amour pour nous lorsque tu as créé toute chose. Et je te prie de me donner de la clarté ce matin dans ce que je vais dire, qu'on puisse aussi apprendre de nouvelles choses sur toi dans ta parole. Amen. Hello. Salut. Comment ça va bien? Si vous ne savez pas c'est qui Sébastien, on a eu des nouvelles cette semaine, c'est lui qui vient de rentrer avec sa femme Kim, c'est que si vous voulez prier pour eux, pour la situation, là, que je pense que plusieurs personnes ont reçu un courriel, là. Situation de CSST refusée, donc c'est plate, là. C'est ça. Je me permets, Sébastien, je ne sais pas si tu pouvais faire ça, mais je me suis dit probablement que c'était un courriel qui a circulé. Là. C'est bon. C'est que tu mettais un visage chez lui. Donc, j'ai... je crois que les notes que je vous ai envoyées couvraient jusqu'au jour 2. Jour 3 et 4, ça va être les prochaines notes que je vais envoyer cette semaine. On était dans le jour 3 la semaine dernière. Est-ce qu'il y avait des questions sur ce qu'on était rendu jusqu'à maintenant? Je sais que M. Healy, c'est peut-être pas à la fin, là, peut-être vous m'avez posé une question. Je vais y revenir probablement plus avec le déluge. Je l'ai pris en note toutefois. Là, c'est une bonne question. Peut-être au niveau du déluge que je vais l'aborder. Là, sa question, c'était par rapport au... Lorsqu'on a parlé de la création des océans la semaine passée, dans le fond, quand Dieu a permis que toutes les molécules ou les minéraux se rassemblent dans du solide pour former la croûte terrestre, etc., puis que les eaux se sont ramassées en leur endroit, M. Healy m'a parlé de comment est-ce que ça s'est fait qu'on ait de l'eau saline puis de l'eau douce. Cette séparation-là, là, aujourd'hui, on a des lacs d'eau douce, on a un système d'eau douce, mais on a aussi les mers et plusieurs fleuves vont s'y jeter que c'est de l'eau saline. C'est que ça, dans le fond, parce que tout ce qu'on parle là, ça va tout être chamboulé avec le déluge. Là, c'est qu'on va y revenir au déluge. Là, au déluge, on reparlera de ça. Là, je vais en prendre une note. Là. Comment que probablement les idées qu'on a sur comment que les choses se sont placées. Pour la question de la salinisation des océans, là, le fait que l'eau est saline. Faut pas. Hello. Donc, on était rendu la semaine dernière. Là, je sais que pour ceux qui avaient manqué quelques cours, tout est enregistré. Il y a une session qui avait été enregistrée en double. Yannick et moi, on parlait comme en double sur la même bande sonore, je ne sais pas trop. Là, mais ça, c'était peut-être trois ou quatre sessions. Ça se peut, mais ça fait deux fois qu'on est ici déjà. Ça a été correct, les deux enregistrements ici. OK. C'est que s'il y a de quoi, là, Oui, c'est ça, exactement. S'il y a de quoi que vous avez manqué, puis ça fait comme plus de sens, ou vous avez des questions, venez me voir là, en privé, là, je vous répondrai. De toute façon, vous avez mes notes. J'envoie mes notes quand même. Là, mes notes sont quand même pas mal complètes sur ce que je dis. Là. Puis en passant, là, il manque des articles dans mes notes, des « là », des « là », des trucs comme ça. C'est tout à fait voulu. Ce n'est pas des erreurs d'orthographe. Il n'est pas souvent des erreurs d'orthographe, mais bon, il manque des affaires. C'était écrit un peu en paresseux, on passe vite. OK, donc la semaine passée, on a terminé le cours rapidement avec justement le fait que Dieu a maintenant réuni le sec en un seul endroit. C'est probablement à ce moment-là, parce qu'on n'avait pas de données comme quoi que le solide avait encore été créé de la part de Dieu, avait été assemblé. C'est probablement à ce moment-là que tout ce qui était croûte terrestre jusqu'au noyau même a été mis en place, solidifié, si on veut. Puis le sec a été mis à un endroit, apparu au travers les eaux, parce que la terre était recouverte d'eau. Et puis l'eau s'est aussi retrouvée en un seul endroit. Puis là, je vous ai parlé comme quoi que l'expression ne parle pas du fait qu'il y avait nécessairement un seul océan. C'est plutôt que l'eau était maintenant à son endroit, puis le sec était en son endroit. Dans l'hébreu, là, c'est clair ici que ce n'est pas l'idée qu'il y avait un seul océan. C'est pour ça, quand vous lisez dans votre version, il va appeler, mettons, la mode des eaux mer au pluriel. Le mot dans l'hébreu est pluriel. C'est que c'est vraiment. Il y avait encore certainement un réseau hydrographique, un réseau de rivières, etc., complexe avec des canaux souterrains. On va le voir avec le Jardin d'Éden, dans la géographie du Jardin d'Éden, qui avait des fleuves là, qui entouraient le jardin, etc. C'est qu'on a terminé avec ça la semaine dernière. C'est qu'après que vous soyez partis, j'ai rectifié mon petit dessin. Là, c'est que vous avez la couche d'eau, vous avez la planète ici qui est sphérique. Vous avez la lumière qui arrive toujours d'un côté, peu importe lequel, la Terre qui tourne sur elle-même. Vous avez l'alternance jour-nuit. Maintenant, la seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir de l'eau à grandeur, là, j'ai marqué le sec, la Terre. On ne sait pas exactement comment que la Terre est arrangée, mais bon, il y avait de la Terre un peu partout avec de l'eau maintenant dans des lieux bien précis. Donc, les eaux au-dessous, puis l'étendue entre les deux, appelée ciel, qu'on appellerait l'atmosphère aujourd'hui. Puis on a regardé les conséquences de la couche d'eau, je ne reviendrai pas, là, mais vraiment, on a ici un environnement avec une température, un climat plus ou moins uniforme, super bien, pas de précipitation, c'est pas venteux, l'humidité est correcte. On a aussi une pression atmosphérique qui est probablement augmentée parce qu'on a une couche d'eau attirée par la Terre. Donc ça, c'est la situation qu'on a dans l'ancien monde, si on veut, avant le déluge. Maintenant, on arrive dans le jour 3, on arrive à la deuxième partie du jour 3, le sec maintenant a été formé par Dieu. Le Dieu va créer tout ce qui est la végétation. Verset 11 de Genèse 1. Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Donc, un peu comme Dieu l'a fait auparavant dans le texte ici, Dieu va encore se servir de matière première pour créer. On n'a pas de création ex nihilo ici. Là, il va encore, c'est ce que le texte dit, la terre produit Dieu par sa parole, fait en sorte qu'à partir de la terre, il y a eu une production, un assemblage quelconque, là, miraculeux, d'éléments. Parce que dans le fond, la végétation à la base, là, c'est des minéraux, c'est le même genre de molécules qu'on peut retrouver dans la terre. À la différence à ce point-ci maintenant que Dieu va créer ce qu'on connaît aujourd'hui, ce qu'on appelle l'ADN. Puis dans le texte, il mentionne ici, c'est ça qui est nouveau, c'est ça qui différencie la végétation avec la terre et l'eau et les minéraux, c'est que maintenant, ils ont une semence en eux qui leur permet de se reproduire selon leur espèce. C'est que là, nous, dans le texte, évidemment, si on ne connaissait pas plus que ça, on comprendrait le mot semence, le fruit, puis on comprendrait l'idée qu'il semble avoir ici une capacité pour cette création-là de se reproduire, mais à l'intérieur d'un cadre, à l'intérieur de son espèce. C'est ce qu'on appelle, des fois, vous avez peut-être déjà vu ça, la stabilité des espèces. Les espèces que Dieu a créées étaient stables dans le sens qu'elles pouvaient se reproduire entre elles pour donner naissance à une progéniture similaire à elles, mais ils ne pouvaient pas une reproduction entre les espèces de Genèse 1. Il ne faut juste pas oublier dans tout le discours qu'on a ce matin, les espèces ici dans Genèse 1 ne sont pas soumises à la classification moderne selon Linné, là, je pense que Linnaeus en français, je ne sais pas c'est quoi là. En tout cas, celui qui a parti de la classification en botanique puis dans les animaux, ça, c'est une classification arbitraire. C'est nous qui avons décidé qu'on classait les espèces selon des critères qu'on a développés, qui sont bien corrects, mais c'est certainement pas ici la même référence que Dieu utilise dans les espèces mentionnées dans Genèse 1. Mais c'est ça ici qui est nouveau, c'est cette idée-là qu'il y a une capacité de reproduction et quelque chose à l'intérieur du végétal qui lui permet de se reproduire selon son espèce. Et là, nous, aujourd'hui, avec tout ce qu'on a découvert, on a découvert la molécule d'ADN, on a découvert que selon l'arrangement de l'ADN, on a un code génétique. Il y a quand même un code avec des lettres, là, le A, D, je ne sais plus trop les autres lettres, là, mais la séquence de ce code-là, des lettres dans ce code-là, va faire en sorte que ça définit son espèce. Un tel code génétique va avec telle espèce, puis est capable de reproduire telle espèce. C'est quelque chose qu'on a vu qui va même dans le sens... dans le sens d'une création, dans le sens d'une complexité, dans le sens d'une intention. Mais on le voit tout de suite dans Genèse 1. Donc, c'est vraiment ce point-là qui différencie la végétation du reste qui a été créé jusqu'à maintenant. Et c'est quelque chose de très complexe. Hein. C'est des systèmes complexes avec de l'information dans la structure même du végétal qui lui permet de se reproduire. Donc, comme j'ai dit, Dieu s'est servi de la terre comme matière première. On va voir qu'il va s'en resservir même dans la création de l'homme. Et puis, peu importe comment ça s'est passé, c'est comme si Dieu a causé une croissance accélérée parce que, encore là, les végétaux sont créés à l'état mature. On en a parlé au début du cours. Déjà, lorsque Dieu crée, il crée des arbres qui portent déjà en eux un fruit selon leur espèce, de l'herbe qui porte en elle la semence selon l'espèce. C'est comme une croissance accélérée avec la création de l'information génétique. Et c'est intéressant, Dieu, dans le texte, il divise, il classifie les végétaux en trois classes de végétaux pour couvrir toute la planète au complet. C'est bien différent d'aujourd'hui. Là. Si vous mettiez à étudier en botanique, vous capoteriez, pour utiliser un terme conditionnel présent. C'est assez complexe, la division aujourd'hui. Mais là, c'est très, très... Alors, la division est basée sur... est très logique, est très simple. Ça regroupe pas mal tout ce qu'on trouve sur la Terre. Là. C'est vraiment une classification, je dirais, naturelle ou évidente. On pourrait penser ici que la verdure, quand Dieu dit que la terre produise la verdure, c'est probablement tout ce qui est végétation qui couvre le sol, un peu comme un tapis, tout ce qui est gazon, tout ce qui est mousse, une végétation bien drainée, là, ça couvrirait tout ce qui est verdure, serait couvert par ça, là, genre gazon, mousse. Herbe qui porte sa semence, on pourrait penser à tout ce qui entre justement cette végétation-là au ras-le-sol, puis entre les arbres, c'est qu'on peut penser à tout ce qui est céréales, plantes, légumes, herbes, carrément, là, toutes sortes, là, qui ont en eux leurs semences. Ça couvre pas mal tout ça, là, tu sais. Puis finalement, on tombe dans les arbres qui donnent du fruit selon leur espèce. On peut penser à tout ce qui est arbres et arbrisseaux, qu'on connaît même aujourd'hui, qui se reproduisent au moyen d'une semence, soit que ce soit un fruit charnu, ou un cône, ou une noix, dépendamment des arbres. Juste avec ces trois classes-là, on a pas mal tout couvert la végétation. S'il y a quelqu'un qui pense que Dieu en a oublié un, vous me le dites. Là. Non, mais ça couvre pas mal tout. Là. C'est vraiment par rapport à l'homme, ça couvre le sol, c'est à moitié chemin, puis tout le reste qui est plus gros. Là. Oui, éventuellement, Adam va nommer des espèces. Mais même Dieu, quand il crée, la façon qu'on va le voir, qu'il classifie les espèces d'animaux, c'est intéressant, là, c'est encore très logique. Puis c'est aussi par rapport à l'utilisation que les hommes vont en faire, que l'homme va en faire, que l'être humain va en faire. Et à ce point-ci, je vais devoir parler un petit peu de ça, de la reproduction selon son espèce. C'est le troisième point que je vous ai mentionné qui est vraiment important dans ce cours-ci, des points qui sont mal compris ou qui n'ont jamais été entendus. J'avais parlé de trois choses. La première chose qu'on a parlé déjà, c'est l'apparence d'âge. C'est un concept super important. Quand on catch ça, on catch beaucoup d'affaires, puis ça nous sécurise sur la, le sens de la création. On comprend qu'il y a une apparence d'âge pour toute chose qui a été créée. Deuxième chose, j'avais parlé que c'était super important, c'est la création de la couche d'eau, qui est un des éléments que autrement que d'avoir une révélation divine, pas personne pourrait deviner ça dans le passé. Là. Il n'y a pas personne qui pourrait se dire « Ah oui, il y a déjà une couche d'eau de même. » Ce n'est pas une idée qui te vient si quelqu'un ne te l'a dit. Là, c'est que si Dieu nous le dit, qu'il l'a créé. Puis la troisième point, ce qu'on va voir ensemble ici, c'est la question de la stabilité des espèces puis de la sélection naturelle. Je vais embarquer là-dedans, mais juste avant de parler de ça, il y a un autre texte qui nous parle de la stabilité des espèces. Quand on parle de la stabilité des espèces, c'est que Dieu a fixé des limites entre les espèces. Ça veut dire que telle espèce ne pourra pas se reproduire avec un autre. Puis même aujourd'hui, on a des cas comme ça où tu essaies de reproduire, entre autres, là, au niveau des animaux, un cheval avec un âne ou quelque chose comme ça, ça donne un mulet, mais après ça, l'animal n'est même plus capable de se reproduire par la suite. Puis même, de toute façon, aujourd'hui, il y a des trucs, c'est clair, qui ne peuvent pas se reproduire ensemble. Mais bon, Dieu a fixé cette limite-là. Maintenant, c'est ce qu'on va voir là, après regarder ce verset-là, c'est qu'à l'intérieur de l'espèce que Dieu définit, il y a énormément de variations, par exemple. Ça, je vais vous expliquer ce concept-là. Il y a énormément de capacités de variation à l'intérieur de l'espèce. On va y revenir. Puis ça, c'est important de comprendre ça. Ça va répondre à plusieurs questions puis plusieurs objections du même coup. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est ça, exactement. Oui, c'est que on a encore... Mais le même, juste au niveau des animaux et des végétaux, on a ça aussi. Oui, c'est ça. OK, tournez dans Corinthiens 15, il y a un texte dans le Nouveau Testament qui appuie cette idée-là de la stabilité des espèces. 1 Corinthiens 15, sûrement que vous savez de quoi je parle. 1 Corinthiens 15, ça parle de la résurrection. C'est qu'on tombe au verset 38 et 39 dans 1 Corinthiens 15. Bon, ce n'est pas un texte de science, mais quand même, il amène cette idée-là tout à fait. 1 Corinthiens 15, verset 37. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Verset 39, toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. C'est exactement la même idée ici que Paul dit dans 1 Corinthiens 13. Vraiment, chaque espèce a sa propre chair, OK? Maintenant, il y a une chose qu'il faut comprendre à ce point-ci. Puis là, je vais prendre un bout de temps pour vous l'expliquer. Ça va peut-être sembler théorique, mais je vais essayer de vous le vulgariser le plus possible. C'est important de bien comprendre ça. Dieu a créé toute chose bonne. Dieu a créé toute chose énormément efficace. Tout animal, tout être humain, tout végétaux. C'était bon et c'était parfait. C'était pas du tout handicapé par la maladie, par le péché, par la mort. Il n'y avait rien de ça. Tout était parfait. Puis Dieu, dans son intelligence, savait fort bien que toutes les espèces vivantes qui étaient créées allaient vivre dans un environnement quand même assez similaire, mais allaient avoir la chance de devoir s'adapter à des milieux de vie quand même peut être légèrement différents. Je veux dire, ce n'est pas les mêmes plantes. Puis bon, il y a quand même des variations. Et on note ça dans le code génétique. On le note moins de nos jours, mais il y a une énorme possibilité de variation. On le note même chez nous. Regardez, là, un homme et une femme vont avoir des enfants. On constate la variation chez les enfants. La variation, en passant, qui est très, très mineure parce que c'est des variations de ce qu'on voit. Ça reste des êtres humains dans le fond du génétique. Là, le gros, ça fait un être humain. Mais je veux dire, les variations au niveau de tout le reste, grandeur, couleur des yeux, couleur des cheveux, morphologiquement, il y a énormément de possibilités de variation tout en restant à l'intérieur de l'espèce. Bon, ça, c'est un exemple que je vous donne. Mais on trouve ça un peu à grandeur de la nature, de la création. Et maintenant, ça va dans le sens d'une création intelligente. Dieu a créé des êtres, on le constate aujourd'hui, qui ont un énorme potentiel génétique. C'est-à-dire, ils ont énormément d'informations à l'intérieur d'eux pour pouvoir, lorsqu'ils se reproduisent, donner un énorme éventail de progéniture qui ont beaucoup de différences entre elles, mais ils restent à l'intérieur de l'espèce pareil. Donc, toutes sortes de trucs, là, au niveau morphologique, etc. Okay? Et Dieu a dû créer ça comme ça au début. Maintenant, et ça permet, la force de ça, bien, c'est deux choses. On connaît notre Dieu comme un Dieu qui apprécie la diversité, qui aime la diversité. On le voit dans la création, on le voit dans ses rapports avec l'homme. Dieu aime la variété, aime la beauté, la diversité. C'est quelque chose qui nous est révélé dans la Genèse, c'est quelque chose qui nous est révélé dans la création. Dieu, je veux dire, on regarde des bébites des fois, là, ça avait ton impression que ça a été peinturé au pinceau, ça n'a pas de l'air réel. Ça nous parle de Dieu. Dieu n'est pas stoïque, il apprécie le beau et c'est quelque chose qu'il nous a donné d'apprécier aussi. Donc, la possibilité d'avoir énormément de variations, ça va dans le sens de Dieu qui aime la diversité. L'autre chose que ça fait aussi, c'est que ça permet aux enfants ou à la progéniture de s'adapter un peu à toutes sortes d'environnements. Okay? Et ça va devenir d'autant plus important après le déluge. Et bon, Dieu, dans sa préscience, dans sa toute-puissance, pouvait savoir ça, mais lorsqu'après le déluge, on va tomber dans des environnements adverses, des environnements où ce que c'est moins le fun vivre, ça ne sera plus parfait comme avant. La possibilité d'avoir des générations, une progéniture qui montre beaucoup de variations, ça peut permettre à l'espèce de survivre plus facilement. Je donne un exemple super bête ici, mais pour aider à comprendre, si, mettons, des lapins donnent naissance à des lapins qui peuvent être foncés, puis d'autres pâles ou presque blancs, OK? Puis ça donne que cette famille-là s'est ramassée dans un environnement qui a de la neige après le déluge par moment, OK? Puis à ce moment-là, on est rendu déjà avec la prédation. Il y a des animaux qui prédatent, qui se nourrissent sur d'autres animaux. Et donc, évidemment, les offspring, la progéniture qui risque d'avoir plus de chances de survivre à long terme, c'est celle qui paraît moins dans le paysage. Donc, peut-être que les blancs ou les plus pâles vont risquer de moins se faire bouffer. Puis les autres vont avoir l'occasion de se marier ensemble, puis de faire d'autres petits. Puis si eux, dans leur code génétique, le gène poil blanc s'est manifesté, c'est peut-être parce qu'il était manifestable dans leur code génétique à eux. S'ils se marient avec une conjointe qui a le même gène manifestable, les chances que ce gène-là se manifeste dans leur enfant à eux est plus grande. Puis de la génétique, c'est une question de probabilité. Hein. Puis tu mets ça sur plusieurs générations où est-ce que cette petite famille-là de blancs vivent ensemble, bien, tu te ramasses à avoir une région qui risque peut-être d'avoir une espèce de lapin qui va être plus blanc. Puis une des raisons quoi qu'elle va peut-être être juste blanc avec le temps, c'est que les autres gènes qui permettaient d'avoir, mettons, foncé, ont peut-être carrément disparu ou ont été maganés, j'utilise des beaux termes ici, dans le code génétique, c'est que c'est même plus possible de revenir en arrière. OK? Bon, il y a des cas d'exception des fois. C'est que là, on est à ce point-ci comme une population qui s'est blanchie avec le temps. OK? Vous voyez, c'est à travers la reproduction. Parce que c'était juste plus facile de survivre contre les renards puis les loups dans cette région-là. Fait que tout d'un coup, on est parti d'une population au début qui avait énormément de possibilités de couleurs dans leurs enfants. Puis là, d'un coup, dans cette région-là géographique, bien, c'est pas mal du blanc qui se trouve là. C'est que ça, c'est possible seulement, ce que je viens de vous dire là, c'est seulement possible si les parents originaux avaient le potentiel d'avoir toutes ces couleurs-là dans leur gène. Ça n'aurait pas été possible autrement. S'il y avait juste une possibilité, bien, c'est tough là, quand tu te fais bouffer une fois, puis après ça, tu sais, je veux dire, l'espèce t'offre pas à run longtemps. Mais ça, c'est tout. Ça va dans l'intelligence de Dieu qui a prévu le coup, si on veut, ou qui a donné aux espèces, nous incluant aussi, la possibilité de s'adapter. Comme je vous dis, c'est pas juste ça, mais il y a ça qui était prévu de la part de Dieu. Maintenant, c'est clair que ça a dû se produire. Okay? Tout ça, là, ce que je viens de dire, ça a dû se produire. On pourrait deviner quelles étaient les espèces initiales de Genèse 1, mais c'est un peu difficile à savoir. Aujourd'hui, on pourrait deviner, je veux dire, on a peut-être, je ne sais pas, là, 3859 espèces de genre chien, loup, quelque chose dans le genre. Puis il y en a bien des fois, là, tu sais, y a pas grande différence. Le poil est un peu plus long. Puis on a bien des différences dépendamment d'où ce qu'ils sont. Mais on pourrait s'imaginer qu'initialement, peut-être, pouvait avoir un genre d'espèce canine là, qui était peut-être, ou une coupe qui était peut-être ancestrale à toutes ces espèces-là. Puis que, t'sais, parce que les différences, des fois, sont assez minimes. Puis c'est même possible, dans des cas, de faire des croisements puis de faire reproduire deux espèces différentes ensemble de nos jours qui vont donner des progénitures viables. On fait de la sélection artificielle, on fait du croisement là, même dans les espèces qu'on a pris le plus de contrôle depuis des années, les chiens, etc. C'est que ça se fait. Là. Oui, Esther? Oui. C'est ça, j'y viens. J'y viens, exactement, j'y viens. C'est que je répéterai pas, mais j'y viens, je suis rendu justement là. Le point, c'est qu'ici, ce que vous voyez qui se produit, dans un monde idéal, ça ne se produirait pas, mais dans un monde où ce que le péché est entré, puis que la mort est entrée, puis qu'éventuellement, on n'a plus la couche d'eau pour nous protéger des rayons nocifs du soleil ou cosmique quelconque, on a de la mutation génétique qui a embarqué, on a des maladies qui ont endommagé nos métabolismes. Puis ça fait en sorte que ce gros bagage-là, avec le temps, puis on le constate, ça fait juste se rétrécir. Le bagage qui était dans une espèce immense au début, après, mettons, 6 à 10 000 ans, il commence à être pas mal plus limité que ce qu'il y avait. Des fois, simplement parce qu'il y a eu de l'isolation géographique. Il y a des peuples ou des peuples d'animaux ou d'êtres humains qui se sont isolés géographiquement de d'autres dans un coin. Puis les gènes qui ont été manifestés davantage dans les générations, c'est simplement parce qu'ils ont été isolés après le déluge de d'autres peuples. Des fois, c'est juste une question de, en guillemets, de hasard, là, vous comprenez bien, où est-ce qu'il y a eu un isolement. Mais ça fait en sorte que tu perds carrément, tu perds du potentiel génétique, OK? Tu perds la possibilité d'avoir beaucoup d'informations, tu en as moins. Au pire, on pourrait appeler ça de la dévolution. C'est-à-dire que j'ai un gros bagage au début quand je pars, puis je finis avec un petit bagage. Ce n'est pas super positif, ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas rien qui s'est créé dans le processus. Au pire, il y a du stock qui s'est perdu. On a perdu de l'information qu'on avait au début, de l'information génétique, on en a perdu, puis aujourd'hui, on en a moins. Ça n'a rien à voir avec la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution demande de la création d'informations génétiques. Vous comprenez, on parle d'une roche qui, moléculairement, est beaucoup plus simple qu'une plante, mais il faut se rendre à la plante. Pour passer de la roche à la plante, il faut qu'il y ait de la création d'informations génétiques. Il faut que, d'une façon quelconque, on se ramasse à avoir plus de bagages tout d'un coup, puis il faut avoir quelque chose qui cause ça. Qu'est-ce qui peut causer cette augmentation d'informations-là? Il faut l'avoir. C'est ça le moteur de l'évolution. Il y en a qui appellent ça de la macroévolution. Pour que ça fasse du sens, ça, il faut qu'il y ait le moteur. Puis le moteur, il faut que ça soit quelque chose qui permet la création d'informations génétiques. Vous comprenez? On va y revenir à ce point-là. Nous, on croit que Dieu, c'est lui le moteur. Lui a créé toute l'information au début. Il a tout créé d'une shot. Puis ce que ça le fait, ce qu'on appelle en biologie la sélection naturelle, c'est naturellement, il y a de l'information qui est sélectionnée à travers les générations. Ça, Charles Darwin, la première fois qu'il a pensé à ça, en faisant ses voyages, puis qu'il a passé autour des îles Galapagos, il a constaté la sélection naturelle, entre autres avec des passereaux qui étaient sur les îles Galapagos, puis il a constaté qu'il y avait des variations assez minimes entre ces passereaux-là, ces oiseaux-là qui vivaient sur les îles. Les îles Galapagos sont à l'ouest du continent d'Amérique du Sud, donc dans l'océan Pacifique. Puis il a constaté que les mêmes genres d'espèces se retrouvaient aussi aux côtes, sur le continent même, mais avec des légères variations, dépendamment de quoi ils se nourrissaient. Parce que sur l'île, tu as plus ou moins le choix de ce que tu bouffes à un moment donné. C'est qu'il y a vu des variations, des fois c'était au niveau de la forme des becs, des affaires d'oiseaux, les affaires minimes. Puis ce qu'il a vu, c'était bien intelligent, c'était bien intéressant. Puis lui, il s'est dit, ben, logiquement, les passereaux de la côte puis ceux de l'île doivent venir d'un ancêtre commun. Puis oui, ça fait du sens. Probablement qu'avant qu'il y ait une population qui se ramasse sur l'île, ben, et peut-être qu'ils vivaient sur le continent puis ils étaient tous plus pareils. Puis là, d'un coup, il y a eu une diversification à cause qu'ils se sont chacun ramassés à des endroits différents. Ça, c'est une belle chose. Ça, la sélection naturelle, c'est même biblique dans le sens qu'il n'y a rien dans les Écritures. Mais je vais vous donner des arguments qui vont contre ça. Ça fait tout à fait du sens. OK? Puis Charles Darwin a vu ça. Le problème, c'est quand il a sauté de cette idée-là, puis qu'il a voulu l'extrapoler maintenant pour dire, OK, si ces deux passereaux-là ont un ancêtre commun, peut-être que, là, j'exagère, là, peut-être que le dauphin et la fourmi aussi. T'sais. Bon, il est allé, l'idée qu'à partir de là à là, il a pris la même logique, mais tu peux pas nécessairement extrapoler à ce point-là, à cause de ce que je viens de vous expliquer. Tu peux avoir une espèce initiale passereau, puis il y a une sélection d'informations, c'est correct, mais il y a une stabilité. L'espèce passereau va pas se reproduire avec un dauphin. Okay? Vous comprenez l'idée? C'est pour ça ici, Dieu nous révèle qu'il y a une stabilité dans les espèces qu'il a créées. Énormément de matériel génétique dans chaque espèce, mais à l'intérieur des espèces, il y a une stabilité. On ne passe pas d'une à l'autre. Donc, cette idée-là de Charles Darwin, la première idée, c'était observable, au pire, prouvable. La deuxième idée, c'était une théorie à ce point-là. Puis ça, la seule façon de pouvoir prouver ça, c'est assez difficile de le prouver, de toute façon, comme nous aussi, on le prouver dans le sens que je l'ai vu avec mes yeux, que je l'ai reproduit en laboratoire, c'est impossible, là, parce qu'on n'était pas dans le passé. Mais il faudrait être capable, en laboratoire, de dire, là, je vais faire créer de l'information génétique. Je vais essayer de trouver, de montrer qu'est-ce qui a pu se passer dans le passé. Puis les évolutionnistes travaillent fort, ont travaillé fort, puis aux dernières nouvelles, je n'ai pas suivi ça de près dans les 15 dernières années, là, mais les mutations, c'était bien une chose qui était proposée beaucoup pour dire, avec les mutations, c'est peut-être comme ça que, tu sais, quand tu donnes des millions d'années, puis tu sais, des millions de mutations, maintenant, il va y en avoir une couple de loqueuses là-dedans qui vont donner de quoi de bon, là, tu sais. Mais c'est pas ça à date que les recherches montrent, puis il y en a beaucoup de recherches qui sont faites, entre autres, sur les mouches à fruits, les drosophiles. petite mouche à fruits que vous avez chez vous, là, qui est bon. Même des fois, à l'œil nu, vous pouvez le voir. Là, vous le voyez qui ont des couleurs d'yeux différentes. Après ça, un moment donné, quand vous n'avez rien à faire. Vous voyez, là, des fois, ta voix, c'est rouge parce qu'ils ont des gros yeux, puis tu vois, tu es capable de discerner le rouge. Maintenant, si vous avez un microscope, vous pouvez l'installer, puis vraiment dire, ah wow, elle est rouge, puis tu les collectionnes. Tu collectionnes les couleurs, puis on compare ça les fins de semaine. Non, mais nous, on s'est servi de ça dans les cours de génétique à l'université parce qu'eux, ils se reproduisent super vite. Okay? Ça veut dire, ils espèrent que la POC, je veux dire, je sais pas combien de temps ça dure, mais tu sais. Première journée, ils font des enfants, puis les enfants sont comme capables de faire des enfants la journée d'après. J'exagère peut-être, mais ça veut dire que dans une semaine, il y en a eu des générations qui ont passé. Il y a de la mouche à maison. C'est pour ça, moi, d'ailleurs, que la mouche, c'est pas de la génération spontanée. Là. C'est pas pouf, ils apparaissent pas tout seuls là-même, ces mouches-là. Ils se reproduisent. Je sais pas comment ils font ça, c'était dans vos poubelles, mais il y a de la reproduction, OK? Bon, le point, c'est que avec ces espèces-là, ça pourrait être facile de dire, je vais leur induire... c'est induire des mutations de quelconque façon. Puis je vais essayer de voir s'il n'y a pas de quoi de positif qui se produit. Je vais être capable de le voir parce que les générations avancent vite. Puis au pire, à date, ce qui se voit, c'est beaucoup de mutations qui n'apportent rien pantoute. C'est très neutre. Ou bien c'est détérioratif, c'est négatif. Puis ça va encore dans le sens. Si la création est vraie, puis s'il y a un être intelligent qui a créé quelque chose de complexe qui se tient, bien, s'il donne une petite note dans un château de cartes qui se tient, c'est sûr qu'en général, c'est pas positif ce que ça donne. Ça va dans le sens, beaucoup plus d'une création, le fait que les mutations... Bon, mais c'est sûr que même si en laboratoire, on ne le prouve pas, mais c'est toujours ça l'idée. Donnez-moi 60 millions d'années, puis donnez-moi une couple de coups de chance là-dedans, on va être capable. T'sais, c'est ça l'argument en bout de ligne de l'évolution. Mais quand tu penses à ça, dans le fond... L'évolution, c'est une théorie qui se tient bien de l'extérieur. C'est beau, c'est enseignable. Tu peux convaincre quelqu'un. Mais tu sais, le char, il est beau, là. Il est vraiment beau de l'extérieur. Le char, mais tu ouvres le capot, il n'y a pas de moteur dedans. Parce que tu as beau m'embellir la théorie comme tu veux, tant que tu ne m'expliqueras pas comment la création d'informations génétiques se passe, parce que ça, si tu n'es pas capable de l'expliquer ou même de le prouver, bien, tu ne peux pas avoir d'évolution, tu ne peux pas en avoir. C'est que si c'est les mutations, c'est comme la seule ressource qu'ils ont et ils ne sont pas capables pour l'instant, le moteur, il n'y en a pas. C'est que ça, c'est, je vous dirais, ça, c'est la grosse. C'est un des points où ça révèle une faiblesse profonde dans la théorie. Maintenant, ils vont prendre la sélection naturelle comme étant le moteur de l'évolution. Moi, on vient de le voir comment dans ce qu'on a observé, c'est le contraire que ça fait, la sélection naturelle. C'est que. La réponse, je vais la donner. Je pense pas qu'on est au Seigneur nous-mêmes parce qu'on est profondément intelligent. On s'entend, on revient tout le temps à ça. On sait qu'on a plusieurs textes qui nous disent, tu sais, l'intelligence de Dieu, c'est la folie des hommes. L'intelligence des hommes, c'est la folie de Dieu. Dans 1 Corinthiens, ça parle de ça. Parce que c'est une question de cœur en bout de ligne, oui. Puis moi qui me fait enseigner quelque chose, oui, je vais l'y croire, peut-être pas parce que je veux m'éloigner de Dieu, mais à quelque part, c'est ça qu'on m'enseigne, je pense juste à ça. Mais j'ai d'autres indices qui pourraient me parler de l'existence d'un créateur, mais c'est sûr que ça fait plus ou moins mon affaire aussi d'aller creuser dans ce sens-là. Tu sais. Puis je reviendrai à 2 Pierre 3. Je reviendrai à 2 Pierre 3, aller relire le texte. Moi, j'aime beaucoup répondre avec 2 Pierre 3. Ils oublient volontairement. Puis quand je dis ça, je ne suis pas en train de m'élever au-dessus de ces gens-là, je serais dans le même... On serait dans la même situation, c'est une question de cœur, puis c'est par la grâce de Dieu que Dieu a ôté le voile sur notre cœur. Ça revient à ça. Mais ce que je vous dis là, ça a l'air très simple ici au niveau de la sélection naturelle. J'aurais là, un docteur de l'évolution, je veux dire, on aurait pour des heures à débattre, probablement qu'il partirait dans des mots que je ne suis pas capable de suivre. Moi, je vous dis juste que ce que, à la base, c'est ça. Puis au pire, à la base, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai l'évolution. Il pourrait me dire ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, ça allait peut-être arriver. Oui, mais c'est parce que tu mets ta foi là-dessus. Moi, je mets ma foi ici. On est au même niveau. Tu mets ta foi là, moi je mets ma foi ici. Tu mets ta foi dans tes systèmes que tu as plus ou moins, que tu peux plus ou moins prouver. Moi je mets ma foi ici, puis moi je pense toutefois que c'est plus raisonnable de la mettre là. T'sais, je pense qu'il y a plusieurs arguments. Quand on regarde la création, je pense que la création va dans le sens de la création, la nature va dans le sens du récit biblique beaucoup plus que dans le sens du récit contemporain. Donc, la sélection naturelle, ça explique quoi entre autres? Bien, ça peut expliquer deux choses, ça va expliquer des choses qu'on constate aujourd'hui. Comme je vous ai parlé tantôt, une première chose que je vais mentionner, c'est clair que dans l'arche de Noé, on se fait souvent poser la question, il n'y avait pas assez de place pour toutes les espèces actuelles. Okay, c'est clair, là. Les espèces actuelles, il y en a je ne sais pas combien de millions, là. Mais ça, c'est des espèces selon notre définition arbitraire d'une espèce depuis le 17e siècle, peu importe. Mais les espèces initiales, bien, il y avait assez de place dans l'Arche de Noé parce que les espèces initiales, c'était les espèces qui étaient stables, qui avec le temps et avec la sélection naturelle se sont tellement diversifiées, puis nous on les a classées aujourd'hui, toutes ces diversités-là en espèces elles-mêmes, c'est que c'est clair qu'on ne pourrait pas concevoir que les espèces actuelles rentrent dans l'Arche. Mais certainement qu'on pourrait concevoir que les espèces initiales, les espèces que Dieu a créées, auraient pu rentrer dans l'Arche. N'oubliez pas que tout ce qui était aquatique n'avait pas allé dans l'Arche, puis Dieu ne l'a pas non plus fait aller dans l'Arche. Quand je parle d'aquatique, ça peut inclure tous les insectes. La plupart des insectes se reproduisent de façon aquatique. Je veux dire, même avec le déluge et tout ce qui brasse, il y en a eu en masse des poissons qui sont morts, parce qu'on a en masse de poissons fossilisés. Mais il y en a certainement en masse aussi qui ont survécu, incluant tout ce qui est insectes, tout ce qui est animaux aquatiques qui vivaient dans l'eau n'a pas été dans l'Arche. Plus toutes les diversités que nous, on a appelées espèces aujourd'hui, mais c'était beaucoup moins à l'époque. On peut aussi facilement dire que tu n'es pas obligé de prendre le couple de dinosaures le plus gros et l'amener dans l'Arche. Là, tu pouvais amener des juvéniles aussi. Dieu, dans son intelligence, tu n'es pas obligé de caler le couple qui allait comme monopoliser un étage au complet. C'est que ça pouvait être deux petits poupons. Là, bon. On s'entend, là, mais c'est ça la réponse à la question, mais l'Arche n'aurait jamais assez de place pour toutes les espèces qu'il y a aujourd'hui. C'est les espèces aujourd'hui, ce n'est pas les espèces qui étaient à l'époque. À cause de la sélection naturelle qu'on a... C'est ça, bon, mais c'est ça. Selon nos classifications, c'est qu'on s'imagine que... C'est ça, pauvre Noé. Hein. C'est ça, bien, c'est... Quand je dis sélection... C'est ça. Exactement. Quand je dis sélection naturelle, dans le fond, c'est ça. C'est beaucoup de variations, donc il y a possibilité de s'adapter. Et ça, j'y viens. Puis ça, cette capacité-là d'une espèce de s'adapter parce qu'elle produit énormément de variétés dans sa progéniture, ça a été énormément bénéfique après le déluge. Parce qu'après le déluge, les conditions se sont avérées maintenant adverses. Beaucoup de différents... En tout cas, on va en revenir, là, mais le déluge a causé des changements drastiques, une période glaciaire aussi rapide après le déluge. Puis c'est pas tous les animaux qui ont réussi, malgré la capacité d'adaptation, c'est pas tous les animaux qui ont réussi à passer après le déluge, OK? Il y a énormément d'espèces qui se sont éteintes dans les premières années suivant le déluge. On le constate aujourd'hui, on trouve des fossiles, on ne trouve pas les animaux, les dinosaures, entre autres, en est un exemple. C'est que malgré ça, il n'y a pas tous les animaux qui ont fait un run après le déluge, sans compter maintenant que Dieu a donné la permission après le déluge aux êtres humains de bouffer de la viande. Puis gênez-vous pas, allez-y. Puis là, il y a même Dieu, on va y arriver dans Genèse 9, il y a eu une inimitié entre l'animal et l'être humain qui s'est développée. Puis tu peux être sûr que s'il y avait des dinosaures dans le parage de ton village, mais tu partais une couple de gars, puis il y a dû avoir une chasse massive des animaux qui menaçaient plus l'être humain. T'sais, naturellement, tu ne vas pas aller tuer le lapin, t'en foutu, là, tu peux le tuer pour la manger. Là. Mais si tu as la chienne, puis tu vas être sûr que tu protèges, tu vas aller tuer les couples de grosses bébites qui vivent là-bas. On est bien intelligent. Les animaux, ils sont forts, c'est terrible. Il y a des animaux terribles, mais l'être humain est assez intelligent de trouver des façons de les piéger, puis de les tuer, puis se mettre en gang. C'est que là, je devance les sujets ici, mais certainement que ce n'est pas tous les animaux qui ont toffé après le déluge. Cette capacité-là d'adaptation, c'était positif. Puis, évidemment, avant qu'on découvre l'ADN, puis le code génétique, puis qu'on comprenne la sélection naturelle, même dans les milieux évangéliques, là, on remonte, je ne sais pas, 18e, 19e siècle, pour expliquer juste les différentes races humaines, les différentes races, les différentes couleurs de peau, on a tellement eu d'explications différentes en passant, comme quoi qu'Adam et Ève ont eu des enfants de différentes couleurs, mais là, c'est sûr que les gens qui croyaient dans le déluge universel devaient se ramasser, que ce soit Noé. On a eu des explications comme Noé, il y avait comme trois fils, un noir, un blanc, puis un asiatique, tu sais. Pour que ça fit, peut-être qu'on était comme chanceux. Mais encore là, ça, les différences autant chez les êtres humains que chez les animaux, on parle encore de différences qui sont totalement accessoires, dans le sens que c'est juste sur l'apparence, c'est sur la morphologie, c'est pas sur qu'est-ce qui définit un être humain dans son code génétique. Puis ça tout s'explique ça encore avec la capacité d'adaptation de l'être humain à cause d'un grand réservoir génétique. Et c'est pas pour rien que des fois, vous avez peut-être déjà entendu des cas de couples blancs qui donne naissance à un enfant noir. Ça arrive encore aujourd'hui, parce que c'est une question de probabilité, c'est très rare, parce que les deux, ça donne que le gène qui était déjà probablement très peu manifesté dans leur code, ça a sorti. T'sais, on a des cas, ça sort, il n'y en a pas beaucoup, là, mais je sais dans mes cours de génétique, ça a comme un cas en telle année, puis un autre cas, puis c'est comme ça. Mais juste ça, c'est possible parce que le bagage est là, l'information est là. C'est que, mais beaucoup au niveau des êtres humains. La différenciation chez les êtres humains avait beaucoup à voir aussi avec l'isolement géographique après la tour de Babel. Il y a eu des divisions après la tour de Babel. Les gens qui ne parlaient pas les mêmes langues se sont accotés avec ceux, sont mariés ou sont partis avec ceux qui étaient parlaient leur langue. Puis naturellement, avec le temps, tu te tiens avec ceux qui te ressemblent. Tu sais, c'est très typique aussi des animaux, mais des êtres humains. Il y a ce facteur-là. Il y a l'isolement géographique, les ressemblances, puis il y a les mêmes langues. Tu sais, c'est que je te comprends pas, mais je comprends lui. Bien, on fait bagage, puis on s'en va habiter à l'autre bout de là-bas avec la gang qui se comprennent. Puis si finalement, on traverse un pont de glace pour se rendre là-bas, puis qu'ils font après un bout de temps, bien là, on est comme pognés entre nous autres, puis bon, on va comme se marier entre nous, tu sais. Puis avec le temps, tu rajoutes des milliers d'années. Bon, il y a la sélection naturelle, il y a des gens qui se reproduisent moins dans la progéniture, mais ça fait une gang qui ressemble à ça, tu sais. C'est que whatever, là, vous comprenez l'idée, c'est comme ça que les races, j'utilise ce terme-là, là, mais c'est comme ça que les races, les variations chez l'être humain ont été occasionnées. Tout à cause de la sélection naturelle. Est-ce que j'ai été assez clair là-dessus? Je trouvais ça important. Je n'étais pas en train d'étudier un verset, là, mais je suis en train de vous quand même parler d'un phénomène qui est présent dans la création de Dieu. Oui, Esther.
Ce que je vois, c'est que par besoin, ça s'est
tout à fait.
Mais avant le début,
tout à fait, tout à fait. Oui. Ouais. Déjà avant le déluge, j'ai commencé toutefois à avoir certains regroupements dans le sens que juste avec les générations de Caïn, juste avant le déluge, une des choses qu'on va voir, c'est qu'il y a des gens qui ont décidé qu'ils invoquaient l'Éternel, il y en a d'autres qui ont décidé qu'ils faisaient leur propre vie. On va le voir dans Genèse 4, vraiment cette idée-là de la descendance de Caïn. Il y avait déjà un certain cleavage, un certain regroupement, dépendamment si tu marchais avec l'Éternel ou non. Mais oui, tout à fait. Après le déluge, à cause que la géographie avait changé puis c'était pas mal variable, oui. Puis je pense que la tour de Babel, ça a été le moment surtout où il y a eu le gros regroupement final parce que là, Dieu a comme créé des langues différentes. Mais oui, tout à fait. Au début, c'était beaucoup plus regroupé. Mais on va le voir avec Caïn, parce que Caïn est parti se bâtir une ville, puis après, il parle de leurs descendants à eux, puis là, il parle des descendants de Seth, puis ça avait l'air d'être deux gangs qui vivaient pas la même affaire, pas en tout. Là. Il y en a qui étaient gros sur tout ce qui était, là, on va développer par nos capacités toutes sortes de disciplines humaines, c'est la musique, les métallurgies, tout ça, on va y venir. Puis il y en a un autre qui était marqué beaucoup plus par une vie qui invoque où est-ce que l'Éternel était au centre. On va y revenir, là, encore là, je me devance. Oui, Simon. Ben oui. Oui, tout à fait. Parce que le péché n'avait pas encore eu l'effet de faire tous ces trucs, l'effet de tout maganer autant. Puis la couche d'eau est encore là jusqu'au temps du déluge. Puis le déluge a peut-être eu lieu, là, s'il n'y a pas eu de gap dans les généalogies, il y en a probablement eu, mais le minimum, c'est à peu près 1650 ans entre la création et le déluge. Peut-être plus que ça, parce qu'il y a eu probablement des gaps de générations qui ne sont pas relatés dans les généalogies. Là. Mais ça vous donne un ordre de grandeur. C'est que ça, en temps normal, avec ces commentaires-là, ça terminerait le jour 3. Puis la raison qu'on a parlé de ça tout de suite dans le jour 3, puis c'est la première fois qu'il parle de selon son espèce. C'est la première fois qu'il y a une création qui est capable de se reproduire. OK, c'est Genèse 3, jour 3. S'il n'y a pas d'autres questions, il nous reste encore 15 minutes, on va embarquer dans le quatrième jour de la création. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de dire? Fait que dans le fond, on a déjà dans le cours couvert comme les trois points les plus mal compris ou les moins entendus au niveau de Genèse 1. Oui, Dominique? Oui. Oui, on va y revenir. Oui, tout à fait. Beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses, dont ça. Ouais. Il y a ça, il y a les changements climatiques. C'est pas tous les animaux qui sont adaptés. Écoutez, là, je pourrais me devancer beaucoup, mais on a trouvé des mammouths gelés en Sibérie. Ils semblaient en mouvement. Il y avait encore de l'herbe là, fraîche là, gelée dans les dents. OK? Fait que, bon, on s'entend dessus que ça n'a pas pris des millions d'années avec sa gel, OK? Fait que, ils l'ont mangé, les scientifiques, il y a 5 ans, ouais, ils sont encore vivants? Fait que, mais en tout cas, tout ça pour dire oui, il y a eu des... On va y revenir après le déluge. Dans le fond, ça, ce serait un quatrième point, là, dans le jeu des points dans le cours. Un quatrième point, c'est qu'on ne réalise pas à quel point le déluge a été une catastrophe. On voit souvent le déluge quand on est jeune ou même dans l'enseignement. On voit le déluge comme de l'eau qui monte. Puis là, tu es là, tu dis, aïe, aïe, moi, je suis le dernier, ça habite. Là, j'espère qu'il ne va pas monter trop vite. On voit l'eau monter, mais c'est pas de même que ça s'est passé. T'sais. Pas du tout. Là, c'est pas, c'était pas de l'eau qui montait tranquillement 40 jours, 40 nuits, puis si tu n'étais pas dans l'arche, ben, tu marchais là, tu t'as laissé montant, tu tassais ton tipi à mesure. C'était pas de même que ça s'est passé. Puis là, je vous donne juste un. On a un verset qui nous dit au début du chapitre 7 de Genèse, je crois, 7 ou 8, là, que Dieu s'est souvenu de Noé et de l'arche, puis il a envoyé un vent pour apaiser la mer autour de l'arche. Un bel indice aussi que Dieu s'en est souvenu, puis l'arche n'était pas un petit bateau, là, c'était pas un petit canot, là. C'était toute une patente, puis Dieu a envoyé un vent pour apaiser, pour qu'il puisse passer l'année sans trop de poules qui se ramassent dans la cage des lions. Puis, donc, il était 6 pour courroyer les animaux qui se mélangent. Oui. Oui.
Il y avait
au-dessus des émissions sur la patate?
C'est les champions de la patate, les Andes, au Pérou.
OK, oh, oui, au Pérou. OK.
Il y avait au-dessus de 5000 variétés de patates.
Oui, tout à fait. On est capable aujourd'hui de manipuler là, le code génétique. Hein. C'est qu'au niveau des végétaux, on essaie d'améliorer les espèces, whatever, pour qu'ils résistent mieux aux insectes, tout ça. C'est que, on est. Ouais.
Ça faisait tout, il y avait toutes les vitamines de ça. Et puis ce qui est arrivé, il y avait seulement une variété. À un moment donné, il y a venu un champignon qui s'est installé et qui a tout détruit le
ouais.
Pain de l'affaire de l'eau.
Ouais, ouais, ouais.
Ça a causé des famines, tout ça. Au-dessus d'un million de personnes.
Ouais, ça.
La variété, c'est important aussi. Fait que la,
oui, la... Ça, c'est un nom, pas ça, non. Je niaise 5, moi, c'est bon. Oui, donc, oui, tout à fait. La diversité des espèces, quand je dis que c'est plus facile de s'adapter, c'est face aux maladies aussi. Conditions adverses, ça inclut le climat, mais les maladies aussi, tout à fait, oui. Jenny.
Une question qui est possible de répondre.
Ah, oui, oui. C'est sûr, ben là, ouais, tu me demandes un peu, mais c'est sûr que, pour répondre à la question, c'est sûr que l'être humain n'était pas Dieu, là, il n'est pas éternel, mais c'est sûr que l'être humain, la mort... Oui, je vais répéter la question. Jenny demande, donc, si avant que le péché entre dans le monde, l'être humain a été créé, il n'était pas supposé mourir, il était supposé vivre éternellement, pourquoi fallait-il absolument qu'il mange de l'arbre de vie pour vivre éternellement? Je sais pas, je lance des questions. Si c'était pour vivre éternellement, pourquoi fallait avoir un arbre de vie? Pourquoi Dieu a empêché qu'il retourne dans le jardin? Peu importe. Oui, mettons qu'il était pour vivre éternellement, tout à fait, parce que c'est avec la mort rentrée par le péché d'Adam dans le monde. Est-ce que c'était le cas pour les animaux aussi? Est-ce qu'eux aussi étaient pour vivre éternellement, les animaux? Je penserais que oui, là. Je sais pas marqué clairement, mais il y avait pas. Mais la mort était clairement pas dans la création non plus. C'est que oui. Je penserais que oui. La mort, on pourrait aller dans Romains puis voir comment que la création entière souffre les douleurs de l'enfantement, soupire aussi après la restauration de toute chose parce que la création complète est affectée par le péché. On va le voir. La prédation, c'était même pas un concept dans Genèse 1. Il y avait absolument rien qui profitait de d'autres choses aux dépens de d'autres choses. Okay? Il n'y avait pas même de commensalisme, pour ceux qui ont fait de la biologie, il n'y avait pas d'animal même qui dépend d'un autre animal à son détriment sans que l'autre animal s'en rende compte. Il n'y avait pas de prédation, il n'y avait pas de moustique qui piquait. J'allais dire, tu pouvais aller à la pêche sans te faire bouffer, mais tu ne pouvais pas aller à la pêche parce que tu ne bouffais pas de poisson. Fait que tu pouvais aller cueillir des framboises sans te faire piquer. C'est que non, il n'y avait pas tout ça. C'est que oui, il n'y avait pas la mort, il n'y avait pas la violence. C'est pas juste l'être humain, c'est clairement la création qui a été affectée. Les végétaux ont été affectés. Même Dieu a donné une conséquence claire au péché d'Adam, comme quoi que le sol allait avoir des ronces. C'est pas positif, ça, là, puis ça va être dur à cultiver. On peut aller, il y a énormément de choses. J'allais dire un point. Là. Je dis un point parce que des fois, ça nous trouble. Des fois, si vous aimez ça, regarder des documentaires, je viens à toi après, Denis, si vous aimez ça, regarder des documentaires sur la nature, là, peu importe le poste, les animaux. Là. Moi, j'en ai vu en masse dans mes cours, puis je peux vous dire qu'il y a des affaires que j'ai vues que c'est pas trop le fun. Ne montrez pas ça à mes enfants parce que c'est la nature. Tu sais, il y a des. Quand c'est le temps, là, je sais pas trop. Là, je sais pas, là, des lions ou peu importe. Là, je prends un exemple. Tu sais, une petite gazelle, là, fait pitié. Là, c'est une petite gâte. Ma fille, elle la verrait à la gazelle. Elle aurait le goût de l'apprivoiser. Là. Mais tu sais, quand tu vois deux, trois lions s'embarquer dessus, la déchiqueter en morceaux. Là, tu t'en vas lire après ça dans le texte. Alors, moi, celui-là était très bon. Je me sens que c'est pas super cool. Là, mais c'est, il n'en était pas ainsi au début. Okay? Tout et toutes les choses bouffaient des végétaux. On va y revenir. Tout le monde était végétarien. Ceux à qui ça vous déçoit, mais c'était ça au début. L'autre chose que je voulais mentionner, puis même dans la création, là, moi, j'ai vu des trucs, là, même chez les populations de certains singes quelconques, là, avec des comportements homosexuels. Là. OK, puis c'est pas non plus le fun non plus à aller voir aller. Là. Dans le cas du code documentaire, il n'y avait pas ben de... En tout cas, on voyait tout. Bon, c'est que peu importe. Ceci étant dit, c'était pas non plus très le fun, OK? Fait que là, tu te dis, c'est quoi ces affaires-là, tu sais? Bon, mais c'est une autre qui impose une vision sur qu'est-ce qui se passe entre des animaux, mais il y avait carrément des comportements weirdo. Ça se peut que c'est carrément whatever, les animaux faisaient ça, mais encore là, le péché est venu maganer les affaires partout, puis dans la création aussi. C'est qu'il ne faut pas être surpris de voir des choses dans la création qui ne reflètent pas la beauté ou la bonté de Dieu, parce que le péché a scrappé des affaires. Okay? Mais ceci étant dit, c'est encore possible, on le voit dans Romains 1, de découvrir le Créateur à travers la création aujourd'hui. Même si elle n'est plus comme elle était à l'époque, c'est encore incroyable. Je veux dire, c'est toute la complexité, la beauté, il y en a encore. Je veux dire, là, je ne suis pas en train de dire que c'est plus beau. Là, c'est incroyable, mais ce n'est pas comme ça l'était au début à cause du péché. Puis Romains 8 est là pour backer ça, comme quoi que la création soupire après la restauration de toutes choses. Puis Dieu va restaurer toutes choses dans les nouveaux cieux, nouvelle terre, va restaurer une nouvelle création parfaite. Oui, oui, Denis? Vas-y, c'est correct.
Mm-hmm. Mais l'aspect éternel pour moi dans ces domaines-là, plus pas sur terre, mais à l'extérieur. Mm-hmm. Quand Dieu a créé l'homme, il a donné cette son image, cet élément-là de ton âme qui est appelé à vivre à l'extérieur de ce monde terrestre.
En fait. Je comprends, oui.
Pour moi, la nature, même, pour moi, a pas la seule éternité qu'elle a, c'est le fait qu'elle peut vivre sur terre si la terre le permet de vivre.
Bon, oui. Je comprends. Dans le fond, je répète, Denis disait le concept d'éternité dans la création, il trouve ça difficile à saisir que la création aurait été éternelle. Bon, je résume un peu ce que tu dis parce qu'on aspire plus à une demeure ailleurs que terrestre. Puis aussi, bon, c'est sûr qu'éternel, là, c'est un grand mot, toute la création a un début, donc on n'est pas éternel dans ce sens-là, là, on a un début. Mais là, on parle vraiment en théorie si les choses avaient demeuré telles quelles sans le péché au début. C'est sûr que ce qui est clair, c'est que l'être humain n'allait pas mourir. Okay? C'est qu'éventuellement, Dieu avait demandé de remplir la terre. Bon, là, on pourrait extrapoler. Une fois la terre remplie et tout le kit, là, ben, à un moment donné, tu ne vas pas la surpopuler non plus. Peu importe, on ne partira pas dans des films de science-fiction, mais c'est sûr que l'idée, c'était pas la mort n'était pas là. La prédation, tout ça n'était pas là. Le négatif n'était pas là. Là, moi, j'extrapole en disant, parce que je pense qu'il faudrait aller revoir les textes, mais je pense que la mort... Ça inclut la mort dans toute la création, mais il faudrait déjà voir, là, je veux pas. Je pense pas que les animaux allaient mourir non plus, j'ai pas l'impression, parce que eux, leur mandat aussi, ça a été de remplir la terre. Mais une fois qu'elle est remplie, tu sais, qu'est-ce qui aurait arrivé, je ne sais pas. Mais c'est sûr que maintenant, on ne peut plus penser dans ces termes-là, dans le sens que là, le péché est entré, nos aspirations ne sont plus ici-bas. Mais en même temps, Dieu promet un nouveau ciel, une nouvelle terre dans le futur, peu importe ta position eschatologique. Là, à un moment donné, Dieu va avoir un nouveau ciel, une nouvelle terre, avec des animaux puis des végétaux encore. Vous allez voir dans l'Apocalypse, vous allez voir aussi une nouvelle Jérusalem. Il y a un fleuve, il y a un arbre, c'est un arbre de vie aussi. Là. Il y a des nations, bon, il y a des personnes, il y a des villes. Tu sais, c'est que on n'a pas toute l'information. Puis si on prend des textes qui seraient parallèles au dernier chapitre d'Apocalypse dans Isaïe, etc., il y aurait des animaux aussi avec une entente qui est maintenant comme l'entente qui avait été toujours voulue dès le début, sans adversité, tu sais. C'est que rendu là, tu sais, on est toujours dépendant de Dieu, mais rendu là, on peut-tu s'imaginer cette création-là qui va être nouvelle comme étant maintenant la création qui avait été voulue dès le début, à la différence que maintenant, On a été scellés. On n'a pourra plus pécher comme Adam pouvait parce qu'on a été rachetés. Tu sais, ça, évidemment, c'est une grosse différence. C'est pour ça que je dirais, là, si on est capable de concevoir cette nouvelle création-là, éventuellement, en guillemets. Tu sais. Mais là, celle-là n'est plus ce qu'elle était supposée être, de toute façon. Mais c'est dans ce sens-là. Mais j'ai beaucoup de difficultés, mais je pense que théologiquement, on pourrait aller voir des versets. J'ai beaucoup de difficultés à penser que la mort était seulement pour l'être humain. Je pense que c'est pour la création au complet que la mort est rentrée dans le monde. Puis une chose est claire, c'est que les animaux n'allaient pas se tuer entre eux, ou, ni nous tuer des animaux, ni des animaux nous tuer. L'équilibre qui s'est bâti, oui, ça c'est carrément encore comme la sélection naturelle, ça serait un équilibre naturel au niveau biologique, ça s'est équilibré naturellement. Est-ce que Dieu l'avait anticipé comme Dieu en fait la sélection naturelle, a-t-il anticipé tout ça? T'sais, c'est clair que Dieu peut avoir anticipé bien des affaires. Il dit qu'avant la fondation du monde, on a été élus, là, on pourrait embarquer. Dieu peut anticiper bien des affaires, mais on n'embarque pas dans ces sujets-là. Mais tout ce qui est équilibre entre la prédation, les populations, la question de Denis, en le fond, c'est qu'il y a un équilibre même de nos jours. Il y a des populations que c'est quand même important qu'ils se fassent prédationner dessus, qu'ils se fassent bouffer ou qu'il y en a une gang qui meurt avec un feu de forêt. Il y a des équilibres qui se sont développés, même il y a des espèces qui poussent après des feux de forêt. Ou il y a des populations qui en ont trop, à un moment donné, chevreuil, mais là, ça se régulationne. Mais tous ces équilibres-là qui se sont développés par la suite, c'était pas voulu initial. Je ne veux pas dire que Dieu n'a pas permis que la machinerie soit là pour opérer lorsque le déluge aurait lieu ou lorsque le péché entrerait dans le monde. C'est comme si Dieu a tellement très bien créé les choses que les choses peuvent bien fonctionner même dans un environnement imparfait. Je vois ça de même. C'était tellement très bon que tu scrapes un peu à patente, ça continue à subsister quand même d'une façon assez extraordinaire. Je pense que je verrais dans ce sens-là. Mais c'est une bonne question. Puis on n'est pas éternel, on n'allait pas être éternel d'une façon intrinsèque, comme Dieu est éternel. T'sais. C'est comme Dieu nous a créés, mais il y avait possibilité qu'on meure. T'sais. En tout cas, c'est que je pense qu'on va être pas mal rendu avec les questions. C'est super correct. On est 10 heures pile avec la semaine.